Voici qu'aujourd'hui, nous vous proposons de partir à la découverte du corps humain.
J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit.
Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille?
Ah, ça me chatouille.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette série musicale et médicale. Toute la semaine, nous explorerons le corps humain et délivrerons des ordonnances discographiques. Que vous soyez malade ou en bonne santé, hyper ou hypochondriaque...
Hyperchondriaque ?
Oui, tout à fait, David. Si l'hypochondrie est une peur excessive de la maladie, l'hyperchondrie est une confiance excessive en sa propre santé, y compris quand celle-ci débloque.
Chères auditrices, chers auditeurs, votre corps vous questionne, votre corps vous obsède. Il est cette demeure que vous habitez sans la connaître. Il est votre meilleur allié ou votre pire ennemi, cette forteresse inviolable que vous conservez jalousement ou cette généreuse entrée vers des royaumes de jouissance. Vous êtes votre corps et votre corps, c'est vous.
Mais il arrive qu'il vous échappe, qu'il vous éprouve et c'est le monde entier qui s'écroule. Comme en témoignent les millions de messages anonymes échangés chaque jour sur les forums de santé.
Vous savez, cette tache noire qui apparaît sur votre épaule, cette toux qui vous harcèle jusque dans le bas des bronches, cette douleur au bras quand vous fermez la main gauche.
Nous répondrons à ces questions qui vous obsèdent. À chaque organe, sa mélodie, à chaque maladie, son refrain. Bonjour David.
Bonjour Romain.
Ça va bien aujourd'hui ?
Écoutez, je suis ravi de vous retrouver, si ce n'est que je me suis cogné tout à l'heure contre un poteau en arrivant à la maison de la radio. Et depuis, j'ai comme une espèce de grosse pression dans l'œil. J'ai l'impression même qu'il change de couleur. Et comme je suis daltonien, je n'arrive pas vraiment à voir.
Montrez-moi. Ah, effectivement, l'œil droit est un peu plus clair que l'œil gauche. On a l'impression qu'il vire du marron au vert. Ça me rappelle un post-doctissimo laissé par une certaine Camille 23 dans la rubrique Conjonctivite.
Bonjour messieurs, je suis un peu gêné, mais comme je suis hypochondriaque, je voudrais votre avis, mais avant d'aller chez le médecin. Il y a 2 jours, je caressais mon chat et puis je me suis frotté la paupière. Alors je me suis souvenu de cet article que j'avais lu sur une femme aux États-Unis qui a perdu son œil après que son chat lui a léché. Alors direct, je suis allé me passer de l'eau avant de me rendre compte que ça faisait 2 ans que mon chat n'avait pas fait de vaccin. Et comme il farfouille partout dans mon jardin, depuis je me gratte l'œil tout le temps et j'ai l'impression que je pourrais avoir une conjonctivite ou que ça va empirer. Pensez-vous que ce soit grave ou alors c'est juste mon imagination? Merci pour votre réponse.
Ma chère Camille 23. Au mieux, il ne vous arrivera pas grand-chose. Au pire, vous pourriez perdre un œil. Mais encore faut-il que votre chat ait attrapé des puces capables de dévorer votre nerf optique, ce qui semble peu probable. Auquel cas, vous pourriez devenir borgne. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ils sont nombreux à avoir survécu, et même à avoir décuplé la puissance de leur acuité visuelle. En témoigne Sammy Davis Jr., l'un des bornes les plus élégants de l'histoire, qui malgré son infirmité, gardait toujours un œil sur le moineau.
Le moineau ?
Oui, ça doit être une métaphore. Keep your eye on the sparrow, Sammy Davis Jr.
Don't go to bed with no price on your head. No, no.
Don't do it.
No, no. Don't do the crime if you can't do the time.
Don't.
don't do it. Ain't gonna fight with no thief in the night.
Un jour, qu'on demandait à Sammy Davis Jr. quel était son handicap au golf, il répondit « Écoutez, je suis noir, je suis juif et je suis borgne, ça vous suffit pas ?»
Faux. C'était une histoire inventée à son sujet, et bien qu'il fût effectivement juif, noir et borgne, il disait qu'elle l'avait beaucoup blessé.
Sammy Davis faisait partie du Rat Pack à Hollywood, avec Frank Sinatra et Dean Martin, mais s'il avait réalisé un film, il aurait fait partie d'un autre club bien connu, celui des réalisateurs borgnes d'Hollywood.
À la tête desquels John Ford, qui a perdu son œil pendant la guerre de Corée. Il fut pourtant opéré à temps, mais l'homme n'avait pas le temps d'attendre, impatient comme il était. Il retira trop tôt son bandage et c'est ainsi qu'il s'aveugla. Ça ne l'a pas empêché de réaliser dans la foulée La prisonnière du désert. Borgne n'a qu'un œil, mais il pleure quand même.
On remercie Hector Zazou, artiste franco-barré de pop électro africaine postmoderne, pour cet interlude particulièrement dépressif, mais néanmoins instructif.
Revenons donc à notre ami John Ford, qui n'était pas le seul réalisateur atteint de monophtalmie.
Monophtalmie ?
Eh oui, du grec monos, seul, et ophtalmos, œil. John Ford faisait partie du fameux Club des Cinq, le Club des Cinq borgnes, avec
Raoul Walsh,
qui avait perdu son œil à cause d'un lapin qui s'est écrasé sur son pare-brise.
Fritz Lang,
qui avait chopé une simple affection.
Tex Avery,
à qui un collaborateur avait lancé depuis sa table à dessin un petit trombone au visage pour rigoler.
André de Tote,
qui n'a jamais voulu raconter comment il avait perdu son œil. Ça ne les a pas empêchés de réaliser des films, et ça pose la question des chefs-d'œuvre qu'ils auraient pu signer s'ils avaient eu deux yeux.
Œil et cinéma, il semble donc que Bette Davis Eyes de Kim Carnes leur soit tout particulièrement approprié.
Bien qu'aucun d'eux n'ait jamais tourné avec Bette Davis.
Ils auraient pu. Dans ce titre de 1981, la chanteuse à la voix rauque rend hommage à l'actrice de All About Eve et qu'est-il arrivé à Baby Jane, deux rôles qui ont fait d'elle une icône.
Her hair is hollow gold. Lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, stand on her side. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. She's ferocious, and she knows just what it takes to make a pro blush.
fait 40 ans que j'écoute ce morceau qui me donne des frissons, mais je ne sais toujours pas de quelle couleur étaient les yeux de Bette Davis.
Figurez-vous, Romain, que ce fut un mystère pendant de longues années pour les spectateurs, parce que les films en noir et blanc ne permettaient pas d'en deviner le bleu profond, un bleu puissant, un bleu que n'aurait pas chanté le Velvet Underground.
Vous faites ici allusion aux yeux bleu pâle de l'une des plus belles chansons du monde.
En effet, des yeux bleu pâle que l'on peut se faire opérer quand on est atteint du syndrome de dépigmentation aiguë de l'iris. Syndrome décrit pour la première fois en mai 2011 par les docteurs Portman et Gurry et caractérisé par une dépigmentation bilatérale non transillumable du stroma irien de sa base à sa colonne.
Oui, si vous voulez, un œil blême quoi. Blême, comme la voix de Lou Reed.
Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale eyes. Linger on your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. If I could make the world as pure and strange as what I see, I'd put you in the mirror I put in front of me. I put in front of me. Linger on.
Du Velvet Underground, un morceau assez surprenant pour ce groupe que l'on connaît plutôt pour ses paroles d'un réalisme vénéneux sur le New York de la fin des années 60. C'est presque une berceuse à propos d'une ancienne petite amie de Lou Reed à l'université. Ce qui est drôle, c'est que Shelley Albin, la fille en question, avait les yeux noisettes. C'est en tout cas ce que Lou Reed racontera plus tard. Mais il faut croire que le bleu pâle était plus adapté à son blues de l'époque, puisque Mademoiselle Albin allait épouser un autre homme.
Ah, mais voilà qui nous permet de lancer un dernier titre sur les yeux, cette fois-ci en hommage à une jeune femme qui avait vraiment les yeux bruns.
Mmh.
rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running, hey hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping, and you, my brown eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, my brown eyed girl. We used to sing sha la 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 la, just like that. Sha la 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 la.
Brown Eyed Girl, la fille aux yeux marrons, plutôt que les yeux bruns d'ailleurs, David. Mais c'est un nouveau piège que nous tend Van Morrison ici.
Pourquoi ? Elle avait les yeux mauves ?
Mais pas du tout. C'est surtout qu'elle est une brown skin girl, autrement dit une fille noire. Ce morceau narre en réalité les amours d'un couple mixte. Malheureusement, les radios américaines n'étaient pas tout à fait prêtes en 1967 pour les passions interraciales. D'autant moins prêtes que malgré les précautions ophtalmologiques de Van Morrison, le titre sera censuré, mais à cause de son couplet, où il est question de faire l'amour dans l'herbe verte. Dire que le Summer of Love s'annonçait.
Autre chanson que personne n'a censurée, même si elle en choqua plus d'un, celle de notre Belge préféré, qui n'hésita pas à se vautrer dans le complexe d'Oedipe, qui lui ne finit pas borgne mais bien aveugle. Si l'on peut se noyer dans les yeux de l'être aimé, il y a des yeux qui vous regardent toute la vie, des yeux qui ne s'éteignent jamais, des yeux bienveillants qui vous guident dans l'existence, que vous soyez dans la merde, con et faible, ou bien bourré comme une baleine.
Ma mère, elle a quelque chose, quelque chose dangereux, quelque chose d'une allumeuse, quelque chose d'une amère. Elle a les yeux qui tuent, mais j'aime ses mains sur mon corps, j'aime l'odeur au-dessus de ses bras, et je suis comme ça. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours. Je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière.
Dans les yeux de ma mère, Arnaud. Bouleversante déclaration d'amour filial, thème finalement assez rare en chanson. Ces yeux-là voient tout, déchiffrent tout. Ils ne sont sourds à aucun des tracas que connaît Arnaud.
Des yeux sourds.
Des yeux sourds, oui, j'en avais envie, David. On parlait des bornes tout à l'heure, mais on sait depuis Niagara que c'est au royaume des sourds que les borgnes sont rois.
On n'a jamais vraiment tout compris à cette chanson de Niagara, mais on l'aime quand même. Sur un célèbre forum médical, Boris83 posait cette question.
Je vis depuis quelques mois une relation super intense avec une jeune fille qui adore me mordre l'oreille. La semaine dernière, elle y est allée un peu fort et maintenant j'ai le lobe qui noircit. Et comme j'ai un peu saigné, il m'en est tombé un tout petit bout de rien du tout. Alors je lui dis de faire attention, mais j'ai peur qu'elle m'en arrache un plus grand. Pourra-t-on le cas échéant me recoudre le lobe? Et si ça arrivait, pensez-vous que cela puisse affecter mon ouïe?
Cher Boris83, vous avez été victime d'otaxélanie. C'est le terme scientifique employé pour décrire cette pulsion qui consiste à mordre pendant l'acte sexuel. Mais pas que. Quand l'adrénaline vous fait tourner la tête, ça peut arriver dans des circonstances encore plus bizarres. Prenez l'exemple d'Evander Holyfield. Ce boxeur est resté fameux depuis sa rencontre avec Mike Tyson le 28 juin 1997.
Pas tant pour sa victoire d'ailleurs, mais on se souvient tous de ce troisième round où le champion du monde des poids lourds s'est laissé aller à arracher un bout d'oreille à son adversaire. Depuis, les deux se sont réconciliés, Mike Tyson est même venu lui rendre son petit bout d'oreille dans la publicité d'une célèbre marque de basket.
Mais bien avant encore, Boris83, sachez que d'autres décrivaient cette pratique dans une langue foisonnante et colorée. Dans les années 70, Jean-Yann parodiait Charles Aznavour dans une chanson étonnante qu'il nommait en vous rendant un hommage avant-coureur « Pourquoi m'as-tu mordu l'oreille ?»
Tous deux dans notre chambre, quand nous nous regardons devant les draps froissés par une nuit commune, baissant nos quatre yeux, soudain nous comprenons notre affreux désespoir, notre immense infortune. Nous sommes les victimes à jamais séparés d'un phénomène qui dissocia notre couple. Et comme l'araignée contemplant le fil souple de sa toile qu'un vieux balai vient de crever, nous voyons se dresser le souvenir tragique de ce qui fut pour nous un amour extatique. Et devant les débris de notre passion, soudain dans mon esprit s'infiltre une question. Pourquoi m'as-tu mordu l'oreille? Pourquoi pris-tu mon lobe entre tes dents? Et me le happas-tu de ta bouche vermeille quand le tango nous grisait d'un rythme troublant? Ta tête était sur mon épaule, tu m'as dit penche-toi que mes lèvres te frôlent. Mais de tes incisives longues et pointues, pourquoi pris-tu mon lobe et me le mordis-tu? Depuis ce jour, vois-tu, la vie n'est plus pareille, car entre nous le lien de l'amour s'est brisé. Depuis que tu m'as mordu l'oreille, nous vivons comme des étrangers.
Est sûr qu'il y a plus de chances de se faire arracher un bout d'oreille que les autres, le personnage à longues oreilles. Extrait du Carnaval des animaux de Saint-Saëns, on imagine que ce personnage est un genre de bête bien particulier. Il ne peut s'agir de l'éléphant à qui le compositeur a déjà dédié un morceau.
Un lapin peut-être? Une gerboise? Ce petit rongeur sautillant que l'on trouve en Asie? Difficile d'imaginer que Saint-Saëns en ait entendu parler plus d'un siècle avant Google. Un âne? Oui, mais un âne étrange. Un âne à qui on aurait mis un bonnet d'homme, c'est la théorie de Francis Blanche. à moins qu'il ne s'agisse d'un homme avec un bonnet d'âne et des oreilles d'éléphant, avec une trompe de tapir ou de musaraigne, un être mi-homme, mi-animal, sorti tout droit de l'imagination d'un David Lynch. Et ce n'était pas la bande originale de Psychose, le film d'Arthur Hitchcock, mais d'Alfred Hitchcock. Arthur Hitchcock, tiens donc, qui est-il, le neveu peut-être? C'était le personnage à longues oreilles de Camille Saint-Saëns dans une orchestration dirigée par Georges Prêtre.
Quelques décennies plus tard, en 1913, Eric Satie composait ses Enfantines, suite de pièces courtes destinées aux enfants. La première qu'il acheva s'intitulait « L'enfance de Coco », mais il ne voulut jamais la jouer, considérant qu'elle était trop sophistiquée pour les tout-petits.
« Ne bois pas ton chocolat avec les doigts, ne mets pas ta tête sous ton bras et ne souffle pas dans ton oreille » sont les trois mouvements de cette fantaisie qui mettent à mal les injonctions que les parents lançaient à leurs enfants. C'est un peu le « fais pas ci, fais pas ça » de l'époque, 50 ans avant la chanson. Que vous faites, Robin?
Je souffle dans votre oreille.
Ça va pas la tête.
Je connais néanmoins un personnage qui aurait pu souffler dans son oreille s'il avait eu un peu plus d'humour. C'est ce policier à qui le psychopathe interprété par Michael Madsen coupe l'oreille dans Reservoir Dogs, le film de Tarantino. Juste avant l'acte, il allume la radio et se met à danser sur un morceau qui n'a rien à voir avec les oreilles, quoi qu'il faille pour l'écouter.
La chanson oubliée à l'époque a tellement marqué que désormais elle ne peut qu'évoquer une oreille coupée. Evander Holyfield, soyez heureux qu'on vous arrache un bout d'oreille avec les dents plutôt qu'au rasoir, ça aurait fait beaucoup plus mal. De Steeler Wills.
Si on regarde Reservoir Dogs comme une farce, ça veut dire qu'on est un peu dérangé, c'est vous qui l'avez écrit ça. Si on regarde Reservoir Dogs comme une farce, on pourrait dire de cette séquence qu'elle est une farce d'oreille. C'est là le titre d'une chanson de Linda Lemay, cette drôle de chanteuse québécoise à succès. Si certains se sont amusés à la moquer, la chanteuse Anaïs l'imitait dans un morceau intitulé « Si la vie c'est pas du foie gras », eh bien Linda Lemay a plus d'un corde à son arc, qu'elle bande ici avec un plaisir qui ne dit jamais son nom, celui des métaphores avec lesquelles on jongle pour friser l'indécence sur le fil du rasoir.
Le rasoir du film de Tarantino.
Je t'ai introduit dans mon conduit au plus profond que je pouvais. Et je me suis dit, où qu'il est petit, où sera le plaisir, où sera l'effet. Je me suis enfoncé ton ami de l'autre côté, dans l'autre trou. Mais bon, c'était pareil pour lui, ça marchait pas, mais pas du tout. Puis vous vous êtes mis à gonfler. Adieu, merci, alléluia. Pendant 8 heures, je vous ai gardé tout bien collé à mes parois. Votre performance est dure à battre, j'en ai payé d'autres bien plus cher. Mais toi et les amis de ta boîte, disons que vous êtes une bonne affaire. J'ai dormi tout le long, 8 heures de paix, 8 heures d'extase. Même pas un pli sur les dredons, ça c'est parfait, ça c'est la classe. Alors ce soir, je sais déjà qui dans mon lit je vais choisir. Je pigerai de tes amis dans le tas, je vais me faire une joie de l'épée. Les écraser du bout des doigts et de chaque côté me les introduire. Et je les laisserai en dedans de moi se dilater, enfler, grossir. C'est une jouissance sans pareil et ça change la vie complètement. De se farcir les deux oreilles avec ses petits bouchons fringants. Mais bon, maintenant reste à tester si ça s'insère dans les narines. Car mon conjoint fait pas gronfler, surtout quand il a mangé des bines. Turup, 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 turup.
France Culture, les consultations musicales de David Unger et Romain Boulet. À chaque organe, sa mélodie, à chaque maladie, son refrain.
Et puisqu'il est question d'oreilles et de musique, comment ne pas évoquer le cas de Beethoven ? On sait que le compositeur n'a pas été soudainement atteint de surdité, mais qu'il a vu son ouïe décliner à partir de 25 ans. Faute de dossier médical, ses symptômes sont principalement documentés par ses correspondances dans lesquelles il se plaint de la progression de son handicap. L'origine en reste hypothétique, syphilis pour les uns, inflammation digestive chronique pour les autres, mais il est certain qu'ils ont eu une influence sur ses compositions.
Ainsi, dans une étude publiée l'année dernière, dans le British Medical Journal, on a démontré que la teneur en notes aiguës de ses quatuors à cordes a sensiblement diminué au cours du temps. Il faut dire qu'après s'être équipé d'un cornet acoustique qui ressemblait furieusement à celui du professeur Trifon Tournesol, Beethoven avait mis au point une autre technique. Comme son oreille interne était intacte, il avait trouvé un système ingénieux pour continuer à percevoir la musique. Il serrait très fort une baguette en bois entre les dents qu'il appuyait sur la caisse du piano, ce qui lui faisait entendre les résonances, les sons par transmission osseuse.
Il n'en demeure pas moins que lors de la première représentation publique de sa 9e symphonie en 1824 à Vienne, il est totalement sourd. Il faudra le soutien de son premier violon pour que l'orchestre ne se désynchronise pas trop, lequel lui fera d'ailleurs signe de se retourner à la fin pour qu'il goûte le triomphe de la salle qui n'entendait même pas. On souhaite à Grand Corps Malade un destin aussi symphonique.
Bonjour docteur. Je viens vous voir parce que je l'ai jamais trop raconté, mais j'ai des bruits chelous dans la tête. Enfin dans la tête, dans les oreilles quoi. Ça fait longtemps en fait, ça arrive d'un seul coup et puis ça revient assez régulièrement. Et puis c'est des bruits, enfin, comme des trucs que je connais déjà. Et du coup, c'est très bizarre, tout se mélange un peu. C'est, je sais pas comment dire, j'entends comme des... Par exemple, j'entends Brassens sur un vinyle, chanson pour l'Auvergnat. J'entends l'accent de ma grand-mère quand elle chantait Ramona. J'entends les voix de mes parents, de celles qui rassurent. J'entends ma plume sur un papier, les premières ratures. J'entends Maggie à la télé qui sonne la fin du week-end. J'entends ma mère pour me bercer qui vient chanter Göttingen. J'entends la sérénité, la quiétude et l'harmonie. J'entends mon premier texte qui parle de famille unie. J'entends ma sœur dans sa chambre qui écoutait les Cures. J'entends nos cris d'enfants quand on sortait dans la cour. J'entends la sonnerie du collège qui annonce la fin de l'heure. J'entends toujours beaucoup plus de fou rire que de pleurs. J'entends les portes du métro et la cohue de la ligne 13. J'entends l'accent des clandos qui vendent des frites merguez. J'entends les piliers de bar qui philosophent et théorisent. J'entends le clocher de la mairie qui sonne le temps des cerises. Est-ce que c'est grave, docteur, tous ces bruits dans mon esprit? Est-ce un trop plein de souvenirs et mon cerveau qui réagit? Est-ce que ça doit me faire peur? En fait, je pense que j'ai compris. Tous ces murmures, c'est juste des acouphènes de nostalgie.
Et ils sont nombreux, les musiciens, à avoir des acouphènes.
Neil Young,
Barbara Streisand,
Phil Collins,
Eric Clapton,
Anthony Kiedis, le chanteur des Red Hot Chili Peppers,
Moby
et Brian Johnson, le chanteur d'AC/DC.
Il les a si forts, lui d'ailleurs, qu'il a dû arrêter la scène en 2016, laissant le soin à Axl Rose, le chanteur des Guns N' Roses, de prendre sa place.
L'homme avait, à cette même période, la jambe dans le plâtre, si bien qu'il chantait assis dans un fauteuil, on a connu plus rock'n'roll.
Quant à Pete Townshend, le guitariste des Who, on sait qu'il souffre d'acouphènes depuis 1976, année durant laquelle le groupe a donné, très précisément le 26 mai à Londres, le concert le plus fort de l'histoire de la musique.
C'est ce que nous dit le livre Guinness des records, on entendait jusqu'à 136 décibels à 32 mètres de la scène. Il en est d'autres qui auraient mieux fait d'aller voir le docteur plutôt que de faire de la chanson. Ce sont les VRP, ce groupe proto-punk décadent à la verve mal placée dont vous tenez absolument à nous parler toute la semaine, David. C'est donc votre instant VRP, mais pas trop long s'il vous plaît.
Les VRP, pour ceux qui ont la mémoire courte, c'est ce groupe né sur le bitume du pavé parisien à la fin des années 80, quand le punk francilien battait son plein. Parmi les Vampas, les Berruriers Noirs, la Mano Negra, les Négresses Vertes, j'en passe et des Garçons Bouchés, on reconnaissait les VRP à leur maquillage outré, leur collant qui leur tenait lieu de pantalon, et leur tournée en Europe centrale où ils cherchaient à éprouver une formule dont on peut dire qu'elle fut éprouvante. Rire des plus faibles était leur passe-temps favori, les handicapés, les petites gens, les pauvres gens, les gens seuls, les gens malades, les gens nés avec des malformations physiques ou mentales étaient leur cible préférée. Et comme aujourd'hui, notre émission tourne autour de la tête, et oui, de la tête, je vous propose de nous intéresser à la dépression. Dépression que les VRP ont raillée dans ce texte improvisé sous je ne sais quelle substance et qui nous raconte un homme. Un homme seul. Un homme aux abois. Un homme qui ne sait quel regard porter sur l'existence. Un homme qui a perdu toute confiance en lui et qui pense renouer avec le meilleur de lui-même en partant. C'est là le titre de la chanson « Partir ». Mais partir, c'est souvent quitter. Alors quitter quoi? Quitter qui? On ne le saura jamais. Pour aller où? On ne le saura pas non plus. La dépression est un mal qui ronge près d'un Français sur dix. Nous sommes le pays qui consommons au monde le plus de benzodiazépines, derrière l'Espagne, selon un article du journal Libération datant de 2019. J'imagine que ça a dû grimper depuis, avec le coronavirus, le confinement, tout ça, quoi. Tous ces gens seuls que la maladie angoisse. Et les VRP, bah ça les amuse.
Ce soir, je pars. Ce soir, c'est le grand départ. J'aurais pu te dire au revoir quand tu m'as porté mon dîner. Mais rien, j'ai tout gardé en moi. Et ce soir, dans la gare, je pars. Prendre l'avion, prendre le train, prendre un bateau ou bien ta main. Mais partir, Ce soir j'ai décidé de partir, de quitter ma maison, mes souvenirs pour ailleurs. Et je vois courir en toi les petites maudites minces menères. C'est rien. Cet escargot qui court au loin me dit sûrement que je vais bien. Je pars. Et je regarde dehors les vaches qui dansent avec le sable, les fleurs qui mangent des cartables. Je vais bien, je vais bien. Cette fleur, cette marguerite que tu regardes avec tes yeux bleus, bleus, bleus comme le feu de Dieu. Ah, ah, et ces poupées laides qui passent dans ma mémoire en me bouffant la moelle et mes tartes aux pommes. Un chien galope sur la montagne et regarde avec attention son maître qu'il aime. Je vais manger par terre, tiens. Manger tout, les vers de terre. Et tes regrets.
D'autres tentent des méthodes plus radicales pour échapper aux affres de la dépression. C'est le cas d'Alice 74 qui écrivait sur un forum.
Étant insomniaque depuis l'enfance, il m'est arrivé de prendre parfois 20 comprimés de somnifères avec des anxiolytiques. Pas de quoi hurler au suicide, mais après je passais mon temps à harceler mes contacts sur internet, à bombarder des messages mes ex. Bref, tout le monde m'a bloqué et m'a lâché. Je sais aussi que j'ai dû sortir dans la nuit dehors et je me suis fait voler mon sac avec mes papiers, il a fallu tout refaire. Bref, des comportements à risque assez balèzes. Là j'ai arrêté tous les médocs mais je ne dors plus. Alors je lis la nuit, là j'ai essayé Alice au pays des merveilles parce que je m'appelle Alice, mais ça m'ennuie, ça n'a rien à voir avec moi. Et je fume beaucoup, mais ça allait trop loin donc je préfère ne rien prendre. Que me conseillez-vous quand même de prendre ?
Chère Alice, il va de soi que nous vous conseillons de lire jusqu'au bout Alice au pays des merveilles. Car quoi de plus instructif que les univers enfantins pour nous aider à supporter nos problèmes d'adultes ? Tenez, prenez Bob Marley. Sur son album Soul Revolution, il évoquait Cendrillon et Humpty Dumpty.
Humpty Dumpty ?
Oui, l'œuf assis sur un mur avec lequel discute justement Alice au pays des merveilles. Dans sa chanson « Brainwashing », Bob Marley puise dans des mondes imaginaires afin de créer des contrastes puissants avec le réel. Sur une ligne de basse hypnotique, il parle du lavage de cerveau dont sont victimes les prolétaires du monde entier. Loin des sphères merveilleuses de notre enfance, il dit plutôt
« Arrêtez de croire aux contes de fées, ils ne vont pas devenir réalité. »
Dennis, he ran. we have a spoon. It's just a fork. And I don't need it, no long.
Merci Romain pour ce choix particulièrement hypnotique. Personnellement, parmi les chansons qui traitent des effets de la drogue sur le cerveau, j'ai une petite préférence pour ce tube des années 1990, enregistré en deux langues et qui défendait ardemment envers et contre toutes les polices du monde les bienfaits de la marijuana.
Vous parlez de Cypress Hill, qui avec ce titre va devenir le premier groupe de rap latino numéro 1 au Billboard américain. Ils règlent ici leur compte avec un autre rappeur, Chubb Rock, qui se moquait de leur flow qu'ils trouvaient particulièrement nasal. Leur répartie ne s'embarrasse pas de finesse, le mec est fou dans sa tête.
Fou dans sa tête.
En anglais, insane in the brain, loco en el coco en espagnol, dans une version bien moins connue.
Il ne vous a pas échappé une parenté évidente avec l'instrumental de Jump Around du groupe House of Pain, et pour cause, le même musicien est à l'origine des deux instrumentaux, signant deux succès colossaux à un an d'intervalle. Ce qui en fait tout le sel, c'est cette boucle de chevaux qui hennissent, qui hystérise les pistes de danse. On la réécoute, j'adore l'idée. Allez.
Eh bien, selon leur DJ, ce n'est pas un cri d'animal, pas plus qu'un sample de James Brown ou Sly Stone. C'est un mix de cornemuse et de cornes de brume. En tout cas, de ce qu'il s'en rappelle, parce qu'il a avoué que la consommation de marijuana était tellement importante en studio que ses souvenirs sont aujourd'hui assez flous.
Et on finit notre voyage sur les rives mystérieuses du cerveau avec un groupe de zouk guadeloupéens, les Aiglons, dont le nom original était les Vicomtes. Sauf que dans les années 70, les groupes antillais s'appelaient plutôt les Léopards, les Jaguars. Les Vicomtes adoptèrent donc un nom plus bestial et se rebaptisèrent les Aiglons.
Grand bien leur en fit, puisqu'ils devinrent le groupe antillais le plus vendu dans le monde jusque Cassave en 1985. Cassave, qui ne fut pas avare en prescription médicale, puisque leur hit interplanétaire prescrit le zouk comme seul médicament.
Zouk là, c'est ça le médicament, nous ni. Zouk là, c'est ça le médicament, nous ni.
On parle de zouk pour Cassave, mais les Aiglons jouaient plutôt du cadence, un courant dérivé de musique zaïcienne. Ils l'importèrent jusqu'aux États-Unis, où ils jouèrent notamment au Madison Square Garden, dans un concert resté gravé dans les oreilles du public déchaîné qui eut la chance d'être présent. C'est que leur musique s'adresse plus aux jambes qu'à la tête, même si leur premier succès s'intitule « Le cerveau », c'est ce qu'on écoute là, plongé dans l'esprit souffrant d'un amoureux éconduit.
Déchaîné par les Aiglons en studio. On finit cette émission par le morceau qui l'a ouverte, celui qui a quasiment inspiré le thème de la semaine, « Je ne suis pas bien portant » par Gaston Ouvrard. Avant de vous intéresser à ses symptômes, et notamment à sa rate qui se dilate, prêtez une attention toute particulière au début de la chanson, où il précise que tous ses malheurs sont apparus depuis qu'il est militaire.
C'est que Gaston Ouvrard, qui composa la présente dans l'entre-deux-guerres, a eu une histoire presque contrariée avec l'armée. En 1914, sa petite taille, il mesurait 1m56 et pesait 44 kg, l'empêche de s'enrôler dans la grande muette. Quand les tranchées deviendront la boucherie cloncée et qu'il faudra bien garnir les contingents, il pourra enfin réaliser son rêve et servir dans un régiment de dragons. Blessé deux fois, il reçoit la croix de guerre à la fin du conflit. Il restera meurtri de cette rebuffade et entretiendra des rapports ambigus avec l'imagerie militaire. C'est ainsi qu'il portera systématiquement son uniforme de troupier et inventera par là même le comique troupier.
On pourrait définir ce morceau comme le premier morceau de rap de l'histoire de la chanson française, mais à l'époque on parlait plutôt de virelangue.
Un virelangue ?
Casse-langue, fourche-langue, une locution, une phrase à caractère ludique caractérisée par sa difficulté de prononciation ou de compréhension orale, voire les deux à la fois.
Que depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang-froid. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes. J'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme, le sacrum, c'est tout comme chez le nombril, tout en vrille, et le coccyx qui se dévisse. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Afin de guérir au plus vite, un matin tout dernièrement, je suis allé à la visite, voir le major du régiment. D'où souffrez-vous qui m'a demandé? C'est bien simple que j'y répliquais. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias raplapla, les mollets trop épais, les orteils pas pareils, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Avec une charmante demoiselle, je devais me marier par amour, mais un soir comme j'étais près d'elle, en train de lui faire la cour, me voyant troublée, elle me dit, qu'avez-vous? Moi j'y répondais, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôle, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme, et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille, et le coccyx qui se dévisse, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias raplapla, les mollets trop épais, les orteils pas pareils, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain, en plus de ça, je vous le cache pas, j'ai aussi quel souci, la luette trop fluette, l'œsophage qui surnage, les gencives qui dérivent, j'ai le palais qui est palais, mais les dents c'est navrant, j'ai les petites qui s'irritent et les grosses qui se déchaussent, les canines se ratatinent, les molaires se font la paire, dans les yeux c'est pas mieux, j'ai le droit qui est pas droit et le gauche qui est bien moche, j'ai les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent, j'ai le menton qui est trop long, les artères trop épaires, j'ai le nez tout bouché, le trou du cou qui se découe et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant car maintenant je suis forcé de m'arrêter. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être tout sur patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant.
Une émission réalisée aujourd'hui par un Olivier Bétard en grande forme et mise en son par Sylvain Latu et Julien Calvas.
Aujourd'hui, on vous a parlé de l'œil, de l'oreille, du cerveau, de la dépression, des effets de la marijuana, de la rate qui se dilate, du foie qui n'est pas droit.
Cette émission est disponible en podcast sur le site medicimo.com/franceculture/docteur-esgrave/j'ai-la-rate-qui-se-dilate/www.fr.
On vous retrouve demain pour une spéciale peau, muscles et squelette.
Émission contenant des actifs euphorisants, ne pas associer avec d'autres émissions qui en contiennent pas d'avant 5 ans. Lire attentivement la notice, demandez conseil à votre pharmacien si les symptômes persistent, consultez votre disquaire.